porte de l'Alhambra, la croisade du grand maître d'Alcantara. Lors d'une matinée de recherche dans les vieilles chroniques de la bibliothèque de l'université, je suis tombée sur un court épisode de l'histoire de Grenade, si fortement caractéristique du zèle fanatique qui enflamma parfois les entreprises chrétiennes contre cette ville splendide mais dévote, que je suis tentée de l'extraire du volume de parchemin relié dans lequel il repose, et de le soumettre au lecteur. L'année de la Rédemption, 1394, il y avait un courageux et dévot grand maître d'Alcantara, nommé Martin Yáñez de Barbudo, qui brûlait de désir de servir Dieu et de combattre les morts. Malheureusement pour ce brave et pieux seigneur, une grande paix s'était établie entre le pouvoir chrétien et le musulman. Henri III venait d'accéder au trône de Castille, et Youssef Ben Mohamed occupait le trône de Grenade, et toutes deux étaient disposées à prolonger la paix qui avait régné entre leurs pères. Le grand maître regardait, non sans se plaindre, les étendards et les armes morts qui décoraient le vestibule de son château, les trophées des exploits de ses prédécesseurs, et se lamentait de son destin, qui avait voulu qu'il existât en une période de si peu glorieuse tranquillité. À la fin, son impatience dépassa les bornes, et, voyant qu'il ne pourrait trouver aucune guerre publique dans laquelle s'engager, il résolut de se ciseler une petite guerre. Tel est du moins le récit rapporté par d'anciennes chroniques, bien que d'autres expliquent sa soudaine résolution d'entrer en campagne par ce qui suit. Alors que le grand maître était un jour à table avec plusieurs de ses cavaliers, un homme entra soudain dans la salle, grand, maigre, osseux, l'air hagard et le regard ardent. Tous reconnurent un ermite qui avait été soldat dans sa jeunesse, mais menait maintenant une vie de pénitence dans une grotte. Il avança jusqu'à la table et la frappa d'un poing qui semblait de fer. « Messieurs, dit-il, pourquoi rester ici dans l'oisiveté, vos armes reposant le long du mur, alors que les ennemis de la foi occupent la plus grande partie du territoire ?» « Saint-Père, que voulez-vous que nous fassions ?» demanda le grand maître. « Puisque les guerres ne sont plus et que nos armes sont liées par des traités de paix. »« Écoutez mes paroles, » répondit l'ermite. « Alors que j'étais assis hier soir à l'entrée de ma grotte et que je contemplais les cieux, je tombai dans une rêverie et une vision merveilleuse m'apparut. Je remarquai la lune, un simple croissant, aussi lumineuse que l'étoile la plus brillante, suspendue dans le ciel au-dessus du royaume de Grenade. Pendant que je l'observais, apparut au firmament une étoile flamboyante, qui attirait derrière elle toutes les étoiles des cieux. Elles assaillirent la lune et l'entraînèrent hors des cieux. Et tout le firmament fut rempli de la gloire de cette étoile flamboyante. Mes yeux étaient encore éblouis par cette merveilleuse vision lorsque quelqu'un apparut près de moi, avec des ailes neigeuses et une figure brillante. « Oh, homme de prière, dit-il, va trouver le grand maître d'Alcantara et dis-lui la vision à laquelle tu as assisté. » C'était l'étoile flamboyante, destinée à conduire le croissant, emblème des musulmans, hors de cette terre. Qu'ils prennent l'épée hardiment et poursuivent le bon travail commencé par Pelatho, et la victoire sera assurément au service de son étendard. Le grand maître écouta l'ermite comme s'il s'agissait d'un messager des cieux et suivit son avis en toutes choses. Selon son conseil, il envoya deux de ses plus braves guerriers, armés de pied en cap, en ambassade auprès du roi Maure. Ils passèrent les portes de Grenade sans encombre, puisque les nations étaient en paix, et poursuivirent leur chemin vers l'Alhambra, où ils furent promptement admis auprès du roi, qui les reçut dans la salle des ambassadeurs. Ils délivrèrent leur message vertement et durement. « Nous venons, ô roi, de la part de Don Martín Yáñez de Barbudo, grand maître d'Alcantara, qui affirme que la foi en Jésus-Christ est la foi véritable et sainte, et que la foi en Mahomet est fausse et détestable. Et il vous défie de soutenir le contraire, face à face, en combat singulier. Si vous refusez, il propose un combat entre 100 cavaliers contre 200, ou 2000 contre 2000, accordant toujours à ta foi un nombre double de champions. Souviens-toi, ô roi, que tu ne peux refuser ce défi, puisque ton prophète, connaissant l'impossibilité de défendre ses doctrines par l'argumentation, a ordonné à ses fidèles de le faire par la force de l'épée. » La barbe du roi Youssef tremblait d'indignation. « Le maître d'Alcantara, dit-il, est un fou pour envoyer un tel message, et vous êtes des fripons impertinents pour l'avoir apporté. » Ceci dit, il ordonna que les ambassadeurs soient jetés au donjon, afin de leur donner une leçon de diplomatie. Et ils furent en chemin, rudement traités par le peuple, exaspérés de cette insulte à leur souverain et leur foi. Le grand maître d'Alcantara eut du mal à croire la nouvelle des mauvais traitements infligés à ses messagers. Mais l'ermite, lorsqu'il en fut informé, fut ravi. « Dieu, dit-il, a aveuglé ce roi infidèle pour hâter sa chute. Puisqu'il n'a pas envoyé de réponse à votre défi, considérez-le comme accepté. Par conséquent, rassemblez vos troupes, marchez sur Grenade. Ne vous arrêtez pas avant d'être arrivés à la porte de Elvira. Un miracle aura lieu en votre faveur. Il y aura une grande bataille. L'ennemi sera vaincu, mais aucun de vos soldats ne sera tué. » Le grand maître invita chaque guerrier fidèle à la cause chrétienne à l'aider dans cette croisade. En peu de temps, 300 cavaliers et 1 000 000 de fantassins se rallièrent à son étendard. Les cavaliers étaient des vétérans chevronnés, bien armés, mais l'infanterie était inexpérimentée et indisciplinée. La victoire, cependant, devait être miraculeuse. Le grand maître était un homme d'une foi sans pareille, et il savait que plus les moyens sont faibles, plus grand est le miracle. Il se mit donc en route avec confiance, suivi de cette petite armée. L'ermite marchait en avant, portant une croix au bout d'une longue perche, avec, en dessous, la banderole de l'ordre d'Alcantara. Comme ils approchaient de la ville de Cordoue, ils furent rejoints par des messagers qui, chevauchant en toute hâte, venaient apporter, de la part du roi Castillan, l'interdiction de l'entreprise. Le grand maître était homme d'un seul esprit et d'une seule volonté, autrement dit, un homme d'une seule idée. « Si j'étais engagé dans toute autre mission, dit-il, j'obéirais à ces lettres, puisqu'elles viennent de Monseigneur le roi. Mais je suis envoyé par une autorité plus puissante que celle du roi. Obéissant à ses ordres, j'ai avancé jusqu'ici avec la croix pour lutter contre les infidèles. Et ce serait une trahison à l'emblème du Christ que de faire demi-tour sans achever ma mission. » Alors les trompettes sonnèrent. La croix fut de nouveau élevée en l'air et la troupe de fanatiques reprit sa marche. Pendant qu'ils défilaient dans les rues de Cordoue, Les habitants étaient stupéfaits de voir un ermite portant une croix à la tête d'une armée. Mais quand ils apprirent qu'une victoire miraculeuse allait avoir lieu et que Grenade allait être détruite, les ouvriers et les artisans abandonnèrent leurs outils et se joignirent à la croisade, tandis qu'une foule de mercenaires suivait en vue d'un possible pillage. Un groupe de cavaliers de haut rang, qui ne croyaient pas au miracle promis et craignaient les conséquences de cette irruption non motivée dans le pays des morts, se rassemblèrent sur le pont du Guadalquivir et tentèrent de dissuader le grand maître de le traverser. Il fut sourd à leurs prières, à leurs récriminations et à leurs menaces. Ses adeptes enragèrent à cette opposition à la cause de la foi. Ils mirent fin au pourparler, haussèrent de nouveau la croix et la transportèrent en triomphe de l'autre côté du pont. La foule augmentait à mesure que la croisade avançait. Lorsque le grand maître arriva à Alcalá la Real, qui se trouve sur une montagne qui surplombe la Vega de Grenade, près de 5 000 hommes à pied s'étaient joints à sa cause. À Alcalá, Alonso Fernández de Córdoba, seigneur d'Aguilar, son frère Diego Fernández, maréchal de Castille, et d'autres cavaliers courageux et expérimentés vinrent à leur rencontre. Se plaçant en travers du chemin du grand maître, « Quelle est donc cette folie, Don Martin ? » dirent-ils. « Le roi mort dispose de 200 000 fantassins et 5 000 chevaux dans ses murs. Que pouvez-vous faire contre une telle force avec votre poignée de cavaliers et votre populace bruyante ? Pensez aux désastres survenus aux commandants chrétiens qui traversèrent ces limites rocheuses avec des forces 10 fois plus importantes que les vôtres. Pensez également au tort qui retombera sur le royaume à cause d'une imprudence commise par un homme de votre rang et votre condition, un grand maître d'Alcantara. Nous vous supplions de vous arrêter puisque la trêve de paix n'a pas encore été rompue. Attendez à l'intérieur de nos frontières la réponse du roi de Grenade à votre défi. S'il accède à se mesurer à vous seul, avec 2 ou 3 paladins, ce combat sera de votre responsabilité exclusive et vous vous battrez au nom de Dieu. S'il refuse, vous pourrez retourner chez vous en tout honneur et la disgrâce retombera sur les morts. » Plusieurs cavaliers, qui jusque-là avaient suivi le grand maître avec une ferveur dévouée, furent émus par cette supplique et lui suggérèrent de suivre ce conseil. « Messieurs, dit-il, s'adressant à Alonso Fernández de Córdoba et ses compagnons, « je vous remercie pour le conseil que vous me donnez si aimablement. Et si je recherchais simplement la gloire personnelle, je le suivrais probablement. Mais je me suis engagé à atteindre le grand triomphe de la foi que Dieu obtiendra miraculeusement par mon intermédiaire. Quant à vous, messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers ses adeptes qui avaient hésité, si le cœur vous manque, ou si vous vous repentez d'avoir entrepris ce grand travail, repartez au nom de Dieu, et que ma bénédiction vous accompagne. Quant à moi, même si je n'ai pas plus d'aide que celle de ce saint ermite, j'avancerai sans hésiter, jusqu'à ce que cet emblème sacré soit planté sur les murs de Grenade, ou je mourrai dans la tentative. » Don Martín Yáñez de Barbudo, répliquèrent les cavaliers, nous ne sommes pas hommes à tourner le dos à notre chef, quelle que soit la témérité de l'entreprise. Nous vous avons juste donné un prudent conseil. Guidez-nous donc, et si ce doit être vers la mort, soyez assurés que jusqu'à la mort nous vous suivrons. » À ce moment, les soldats commencèrent à s'impatienter. « En avant, en avant » criaient-ils. « En avant pour la cause de la foi !» Alors le grand maître donna le signal, l'ermite leva de nouveau la croix et ils s'engagèrent dans un défilé de la montagne, entonnant de solennels chants de triomphe. Cette nuit-là, ils campèrent au bord de la rivière Athores, et le matin suivant, qui était un dimanche, ils passèrent la frontière. Leur première halte se fit à une atalaya, ou tour solitaire, construite sur le rocher, poste limitrophe destiné à surveiller les confins et à donner l'alerte en cas d'invasion, d'où son nom de Torre de l'Espia, la tour de l'espion. Le grand maître s'arrêta devant la tour et somma sa négligeable garnison de se rendre. On lui répondit par un jet de pierres et de flèches qui le blessèrent à la main et tuèrent trois de ses hommes. « Comment, père ? » dit-il à l'ermite. « Vous m'aviez assuré qu'aucun de mes fidèles ne serait tué. »«
C'est vrai, mon fils, mais je parlais de la grande bataille contre le roi infidèle. Quel besoin avons-nous d'un miracle pour nous aider à réduire une insignifiante tour ?»
Le grand maître fut satisfait. Il ordonna d'entasser du bois contre la porte de la tour afin de l'incendier. Pendant ce temps, les provisions furent déchargées des bêtes de somme, et les croisés, se retirant à l'abri des flèches, s'assirent dans l'herbe afin de prendre des forces pour les difficiles jours à venir. Alors qu'ils étaient ainsi occupés, ils furent surpris de voir apparaître une grande armée maure. Les atalayas, situés au sommet des montagnes, avaient donné l'alerte, au moyen de bûchers et de colonnes de fumée, que l'ennemi traversait la frontière, et le roi de Grenade était parti à sa rencontre, accompagné d'une grande armée. Les croisés, presque pris par surprise, se précipitèrent sur leurs armes et se préparèrent à la bataille. Le grand maître ordonna à 300 hommes à cheval de mettre pied à terre et de combattre à pied en renfort de l'infanterie. Les Maures, cependant, chargèrent si soudainement qu'ils séparèrent les cavaliers des fantassins et les empêchèrent de s'unir. Le grand maître lança le vieux cri de guerre. « Saint-Jacques, Saint-Jacques, et en avant, Espagne !» Lui et ses cavaliers luttèrent comme des lions dans la fureur de la bataille. Mais ils furent encerclés par une armée sans ombre et assaillis de flèches, de pierres, de dards et d'arquebuses. Cependant, ils combattirent vaillamment et produisirent de prodigieux ravages dans les rangs ennemis. L'ermite se joignit à eux au plus fort de la bataille. Dans une main, il portait la croix. Dans l'autre, il brandissait une épée qu'il mania comme un fou, abattant plusieurs ennemis avant de s'affaisser, couvert de blessures. Le grand maître le vit tomber et s'aperçut trop tard de la fausseté de ses prophéties. Le désespoir, cependant, le fit combattre avec plus de rage jusqu'à ce qu'il tombe, lui aussi, vaincu par la supériorité en nombre de ses ennemis. Ses fidèles cavaliers égalèrent son saint dévouement. Aucun d'entre eux n'abandonna, ni ne demanda grâce. Tous se battirent jusqu'à la mort. Quant aux fantassins, beaucoup furent tués ou faits prisonniers. Le reste s'enfuit vers Alcalá la Real. Lorsque les Maures dépouillèrent les cadavres, ils constatèrent que les blessures des croisés avaient toutes été faites de face. Telle fut la catastrophe de cette entreprise fanatique. Les Maures s'en vantèrent comme une preuve décisive de la supérieure sainteté de leur foi et chantèrent les louanges de leur roi lorsqu'il revint en triomphe à Grenade. Comme il fut démontré de façon satisfaisante que cette croisade était l'entreprise d'une volonté individuelle, contraire aux ordres du roi de Castille, la paix entre les deux royaumes ne fut pas altérée. Les morts manifestèrent eux-mêmes un sentiment de respect pour le courage de l'infortuné grand maître et remirent sans hésitation son corps à Alonso Fernández de Córdoba lorsqu'il vint d'Alcalá le chercher. Les chrétiens de la frontière s'unirent pour rendre les derniers hommages à sa mémoire. Son corps fut placé sur une bière, couvert de la bannière de l'ordre d'Alcantara et la croix cassée, l'emblème de ses espoirs confiants et de sa fatale désillusion, fut porté devant lui. Ainsi furent transportés ses restes, en une funèbre procession, à travers l'étendue montagneuse qu'il avait traversée si résolument. Dans tous les lieux qu'ils traversèrent, villes et villages, la population suivait, avec des larmes et des lamentations, le pleurant comme un vaillant chevalier et un martyr de la foi. Son corps fut enterré dans la chapelle du couvent de Santa Maria de Almocovara. Et ce témoignage de sa bravoure, en pittoresque espagnol ancien, doit encore être gravé sur son tombeau. Sigit celui dont le cœur n'a jamais connu la peur. Aquí yaz aquel que par ninguna cosa nunca ave pavor en su corazón.